suis un historien qui a travaillé depuis de nombreuses années sur l'histoire de l'Inde moderne. Et donc, c'était difficile finalement d'intéresser un public français à cette histoire, même si il y a un certain nombre d'ouvrages qui ont eu une certaine diffusion. Mais on était toujours, malgré tout, renvoyé à un certain exotisme. Et il me paraissait que arriver à trouver une passerelle un peu concrète entre l'histoire de l'Inde et l'histoire de la France serait très intéressant. Et justement, la présence d'un important corps expéditionnaire indien en France pendant la Première Guerre mondiale, un corps qui comprenait plus de 100 000 hommes pendant une période s'élevant entre quelques mois pour un certain nombre de soldats et jusqu'à 3 ans et demi pour un certain nombre d'autres, me paraissait être une bonne occasion de regarder d'un peu plus près comment les choses avaient pu se passer finalement entre la population française et les soldats indiens. Et ainsi d'ajouter un épisode à l'historiographie des contacts franco-indiens qui est très centré d'une part sur l'aventure coloniale française en Inde et d'autre part sur les rapports entre les élites intellectuelles des deux pays. Donc ça me paraissait introduire un volet nouveau et potentiellement très intéressant. Ce livre a été construit en fait largement autour d'un corpus très spécifique, un corpus de lettres que les soldats écrivaient à leur famille et qui a été intercepté et en partie reproduit par le contrôle postal britannique. Alors c'est un matériau qui est très particulier parce qu'en fait sa constitution répond à des inquiétudes politiques de la part du commandement militaire britannique, qui étaient dues au fait que même si on a amené donc ce contingent indien en France, on avait quelques craintes concernant sa loyauté. Et ces craintes étaient dues d'une part au souvenir de la fameuse révolte des Sipayes de 1857, qui avait vu une partie de l'armée coloniale indienne se révolter contre la domination britannique et en fait la mettre en grand danger. Et d'autre part, on était aussi inquiété par la présence en France d'un petit noyau de révolutionnaires indiens, des exilés politiques, dont on avait peur qu'ils essayent d'inciter les soldats à la désertion. Et par ailleurs, dernier élément, on avait peur que les soldats musulmans, qui représentaient quand même près de 40% des effectifs, soient influencés par la proclamation de djihad qui avait été faite depuis Istanbul par le Cheikhoul Islam, le principal fonctionnaire religieux de l'Empire ottoman, qui avait appelé tous les soldats musulmans combattant pour les puissances alliées à se révolter et à rejoindre les rangs ottomans. Donc, pour toutes ces raisons, on avait instauré très rapidement une censure du courrier des soldats. Et puis, on avait commencé à faire circuler des extraits de cette correspondance. Et donc, ce sont ces extraits qui représentent 26 volumes, c'est-à-dire plusieurs milliers de pages, dans les archives de l'ancien India Office, le ministère de l'Inde, qui avait attiré mon attention. C'est une source qui est connue, mais qui a été jusqu'ici exploitée essentiellement par des historiens militaires pour essayer de comprendre la manière dont les soldats indiens ont perçu leur participation aux opérations militaires. Mais moi, ce qui m'intéressait plutôt, c'était la manière dont les Indiens percevaient la France et les Français. C'est donc, ça a été ma source essentielle, mais ça n'a pas été la source unique. J'ai aussi utilisé un roman écrit par un écrivain anglophone indien, Mulk Rajanand, qui raconte l'histoire de ce corps expéditionnaire. Et j'ai aussi utilisé autant que possible des sources du côté français, essentiellement de la presse ou des écrits divers. Mais disons, la source essentielle était du côté indien. Il y a une certaine asymétrie dans les sources entre le côté indien et le côté français. La vision que les Indiens ont des Français, de la France et des Français, est assez contrastée. C'est-à-dire que d'une part, en tout cas d'après les lettres que la censure dont la censure nous a fourni des extraits, hein, il faut toujours être prudent, parce qu'évidemment, la sélection par les censeurs introduit un biais. C'est-à-dire qu'ils ont tendance à présenter plutôt ce qui est positif que ce qui est négatif. Et donc, l'image qui se dégage surtout de l'analyse de la correspondance, c'est une vue très positive de la France et des Français. La France est présentée comme un pays très riche, parfois carrément comme une sorte de paradis. C'est une formule qui revient assez souvent. Les Français sont présentés comme des gens hospitaliers, chaleureux, qui accueillent très bien les soldats indiens. Et alors, c'est intéressant de contraster, par exemple, la vue que les Indiens ont des Français avec celle que les soldats anglais ont, car cette vue est dans l'ensemble extrêmement négative. Le grand écrivain anglais Robert Graves, dans son autobiographie, Goodbye to All That, qui raconte des années passées en France, dit que les soldats anglais détestaient la population française de l'arrière. Et il faut dire que c'était des urbains et que pour eux, ces paysans étaient des ploucs. Alors qu'évidemment, les Indiens, qui sont eux-mêmes presque exclusivement des ruraux, ont une vue beaucoup plus positive. Et finalement, il y a une certaine solidarité interpaysanne qui se manifeste, parce qu'ils sont logés en général dans des fermes à l'arrière. Et dans ces fermes, souvent, les hommes adultes ne sont pas présents, parce qu'ils sont au front ou ils ont déjà été tués. Et donc les femmes sont souvent les chefs de famille, et il y a aussi des enfants et des vieillards. Et donc, en général, par exemple, ces soldats sont une aide appréciée par les femmes pour les travaux de force qu'elles sont obligées de faire sans l'aide de leurs hommes qui ne sont pas là. Donc il y a des relations souvent très, très fortes qui se nouent entre cette population des fermes, population en grande partie féminine, et ces soldats issus d'un milieu rural. Alors ça amène aussi parfois évidemment des liaisons amoureuses. Et aussi forcément un certain nombre de naissances. Même si c'est un point sur lequel il est assez difficile de trouver des choses très précises. Il y a une anecdote qui m'a beaucoup amusé, d'une certaine façon, c'est la question des chèvres. Alors, il faut savoir que les troupes britanniques en campagne étaient nourries à base de ce qu'on appelait bully beef. Si vous voulez, du corned beef. Or, les soldats indiens, étant en majorité hindous et sikhs, ne mangent pas de bœuf. Donc, il fallait trouver un substitut. Alors, le substitut, c'est ce qu'on appelle en Inde mutton, mais en fait, c'est de la viande de chèvre. Parce que, en tout état de cause, on ne peut pas amener des moutons près du front, parce que au moindre coup de canon, ils disparaîtraient très vite, alors que les chèvres sont des animaux beaucoup plus résilients, qu'on peut plus ou moins amener n'importe où. Alors le problème, c'est que où trouver des chèvres? Et donc il y a une correspondance assez intéressante tout au début de la guerre entre les autorités françaises et britanniques. Les Britanniques demandent aux Français, est-ce que vous pouvez fournir 10 000 boucs par mois pour l'alimentation des troupes indiennes? Et les Français disent, ce n'est absolument pas possible. Mais par contre, si vous importez des animaux de l'étranger, on vous dispensera de droits de douane. Et donc, les Britanniques improvisent une mission, et finalement, il y a un certain monsieur Maud, en l'occurrence, qui est envoyé en Espagne et qui, pendant quelques semaines, parcourt l'Espagne en achetant partout des chèvres, qu'il va faire ensuite expédier vers la France. En fait, on a une anecdote très drôle dans le roman d'André Mauroy, Les Silences du colonel Bramble, dont le héros est un interprète qui travaille pour l'armée britannique. Et à un moment, il est confronté au problème que les chèvres sont tombées malades. Et on ne sait pas à quoi est due cette maladie. Donc, on fait appel à des experts qui ne sont pas capables de se mettre d'accord. Mais finalement, les chèvres recouvrent la santé. Et donc, ça veut dire qu'elles peuvent être abattues et nourrir les soldats indiens. Donc, cette anecdote m'a paru tout à fait intéressante. Il semble que la présence des Indiens a été assez rapidement oubliée en France. Et je crois en fait que la majorité des gens, que ce soit en France ou en Inde, ne sont pas très conscients de la présence d'un contingent indien aussi important pendant une aussi longue période, pendant la Première Guerre mondiale. Donc les traces ne sont pas énormes, mais malgré tout, il y a un mémorial qui a été édifié en 1927 dans une localité appelée Neuf-Chapelles, dans le Pas-de-Calais, qui était le lieu où a eu lieu un combat indécis finalement, dans lequel les Indiens avaient une part importante en 1915. Et donc, ce mémorial a été édifié en l'honneur de 4 700 soldats indiens tués en France et en Belgique aussi, parce qu'il y a eu un certain nombre d'opérations qui ont eu lieu en Belgique, et dont les corps n'ont pas été retrouvés. Mais ce mémorial n'a pas pu devenir un véritable lieu de mémoire, parce qu'il n'y a pas eu de récit véritablement consensuel autour de la présence et du sacrifice des soldats indiens. Et en particulier, quand le mémorial a été édifié en 1927, l'Inde entrait dans une période d'agitation nationaliste très importante, ce qui fait que l'opinion indienne n'était pas très intéressée à tout ce qui pouvait rappeler la force du lien impérial entre la Grande-Bretagne et l'Inde. Et donc, cette inauguration est passée relativement inaperçue en Inde et il n'y a pas eu pendant très longtemps de tourisme de champs de bataille indiens. C'est seulement au cours des peut-être 20 dernières années que a commencé à se mettre en place un tourisme de champs de bataille indien avec des guides ont été écrits et donc c'est maintenant, il y a un certain nombre d'Indiens qui viennent éventuellement. Mais ça n'est pas malgré tout, par exemple, un phénomène comparable à ce qu'on trouve du côté canadien ou australien. Voilà quelques éléments.